Cette portion de la parole de Dieu est enregistrée et distribuée par l'Église, grâce et vérité. Jésus promet à ses disciples, « Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. » Nous prions que vous soyez bénis et rendus libres par notre Seigneur Jésus-Christ au moyen de ce message. Bonne écoute!
On faisait du pouce parce qu'on n'avait pas de char dans ce temps-là pour aller porter une douzaine de roses à notre blonde qui était à Longueuil. On se rappelle... qu'est-ce que j'ai dit là, moi? C'était complètement un fait cocasse. On se rappelle... Non, la douzaine de roses, c'était dans ta case à Grimbé. C'était une rose à Longueuil, mais celle-là, je ne l'ai pas vraiment aimée, ma femme. Oh, comment éteindre le premier amour? Rappeler l'autre d'avant, tu sais. OK, bon, je sors de là. OK, c'est ça quand je ne suis pas mes notes, c'est ça qui arrive. Ma femme, elle me regarde, elle dit, t'as l'air vraiment de... Parce que j'ai déjà une blonde à Montréal, comprenez-vous? Fait que là, plus je parle, plus que je me cale présentement, OK? En fait, comment éteindre le premier amour, c'est d'en aimer une autre, de parler d'un autre. Hein? Ça, il n'y a pas rien de pire que ça. À matin, je veux parler de notre premier amour avec Dieu. Et comment on a rencontré Dieu et quelles étaient nos premières œuvres pour Dieu. Et donc, si je pense à mes premiers mois pour Jésus, avec Jésus, il y a juste ma femme qui va avoir de la misère à m'écouter pendant ce message-là, mais je vais régler avec elle plus tard, puis moi je vais avoir de la misère à prêcher. Je pense à mes premiers mois avec Jésus. J'entends la bonne nouvelle de Jésus. Je suis à la fin de mon secondaire 5. Je suis sur le point de faire mon cégep en sciences pures. Et puis, je me rappelle, c'était à l'été 90. C'est au printemps 90 que ça se passait pour moi. Et ça a tellement impacté ma vie de rencontrer Jésus que j'ai fait des choix. Dans ma première année, je suis allé quand même faire ma science pure. Mais déjà, dans ma première année, je quittais mon cégep pour m'en aller en théologie. Et puis, je me rappelle d'avoir dit à Dieu, « Garde Dieu, moi, je te fais confiance, je m'en vais, je vais apprendre la parole, je vais étudier ta parole, puis j'aimerais ça te servir. » Et donc, dans 3 ans, ça va faire 30 ans que j'ai pris cette décision-là de suivre le Seigneur. En 2020, ça va faire 30 ans. Et durant cette marche-là avec Dieu, il y a eu des hauts, il y a eu des bas, il y a eu des chemins qui étaient droits, il y a eu des chemins qui ont été tortueux. Mais au travers de tout ça, j'ai vu la fidélité de Dieu. Et une des choses que j'ai vécues, c'était des points d'aveuglement. Ceux que je me suis aperçu. Il y en a plein d'autres que je ne me suis pas aperçu. Un point d'aveuglement, c'est lorsque vous êtes sur la route, par exemple, puis que dans votre angle mort, il y a une place que vous ne voyez pas, puis c'est là que se trouve le véhicule, puis là, vous faites un geste. Hein? Vous avez un point d'aveuglement. Ça peut être comme ma femme qui elle a une masse derrière l'œil, puis elle dit, il faut que je tasse mon œil pour voir la chose, tu sais, parce que ça presse sur ses nerfs optiques. D'ailleurs, on va aller chez la spécialiste demain, puis on est hâte de savoir si le médicament expérimental qu'elle prend depuis 6 mois va avoir fait effet. Sinon, mais c'est une opération par le cerveau, hein, donc c'est quand même quelque chose qui demande vos prières. Mais elle se tasse comme ça, tu sais, puis il faut qu'elle se tasse un peu pour essayer de voir des fois des formes, parce qu'elle a des points d'aveuglement. Et un des points d'aveuglement que j'en suis conscient et que je me rappelle, c'était en 2004. On était à l'automne, je venais de partir à mon compte, puis je goûtais à de l'argent, parce que j'avais aussi un employé, je pense, qui avait commencé pour moi. Je travaillais à Montréal, j'avais donné ma démission pour mon employeur, j'étais parti à mon compte, puis tout ça. Puis là, je commençais à voir un peu comment la business, ça marchait, puis tout ça. Puis depuis 1996... même 92, j'étais... Ouais, en 92, non. Depuis 96, en janvier, un mois avec ma fille Nice, on avait été dans cette église-là. Puis depuis ce temps-là, j'avais investi beaucoup, beaucoup de temps. Puis c'était presque 7 jours par semaine, tu sais, dans le ministère, plus le travail. Puis je me suis investi beaucoup. Peut-être il aurait fallu qu'on me dise, « Sais-tu quoi, tu as une famille, tu as une vie, tu sais, aussi. » C'était le contraire, il aurait fallu me dire de ralentir un peu, tu sais. Puis il est venu une idée en 2004, quand j'étais en business. J'ai dit, hey, si j'investirais tout le temps et l'énergie que j'ai investie dans le business pour dans l'église, et je le ferais pour le business, crème, moi, je serais rendu millionnaire. Puis là, il y a cette pensée-là qui est rentrée. Fait que tout le mois de septembre, octobre, novembre, je commençais à dire que j'avais plus le temps pour l'église. Puis là, je laissais mes ministères à tout le monde. Je laissais la jeunesse, je laissais l'audiovisuel, je laissais tous les ministères. Puis je disais, pas le temps. Puis je me disais, crime, d'une certaine manière, c'est bon parce que ça va faire lever d'autres mondes. Tu sais. Puis là, le pasteur, c'était, je me rappelle, on était un dimanche matin, le 24 décembre 2004. En fait, c'était un samedi, on avait fait le rassemblement un samedi. Puis, tout son message, ça a été d'honorer tous ceux qui avaient servi dans les derniers mois. Puis, il faisait tout venir en avant, tout un après l'autre. Moi, je me rappelle d'avoir, j'étais assis sur l'estrade, comme c'était l'habitude. Ah, il fait lever son assistant pasteur, il fait lever tout le monde, il fait tout venir en avant, puis là, tout le monde les applaudit, puis là, il fait tout passer, puis là, c'est l'applaudissement. Et je me rappelle qu'à cette période-là, je me nourrissais beaucoup de l'approbation des gens. Parce qu'à chaque fois que je faisais des bonnes shots, j'étais récompensé et honoré publiquement. Puis ça, Dieu avait un remède pour ça. Un remède qui, depuis ces années-là, est venu toucher à ma réputation et à comment je suis vu devant les gens. Et Dieu est venu guérir ça dans mon cœur. En tout cas, une partie de ça a été guérie parce que tu ne veux pas avoir vraiment. C'est comme une mauvaise réputation, par exemple. Malgré tout ça, c'est quand même Dieu avait un plan pour ça. Parce que Dieu, lui, a un plan. Il veut nous rendre semblables à son Fils Jésus-Christ. Fait qu'il va prendre tous les moyens qu'il peut pour le faire. Mais néanmoins, c'était difficile pour moi de voir que tout le monde était honoré puis que mon nom n'a pas été mentionné une fois, alors que cette église-là, il n'y a pas un ministère que je n'avais pas été le pionnier, sauf les finances puis la technique au son. C'est sûr que ça, je ne connaissais rien puis je n'avais pas travaillé là-dedans. Mais tu te dis, Krim, ça fait comme de 96 à 2004, puis là, j'arrête pendant 3 mois, puis il n'y a rien de tout ce que j'ai fait qui est reconnu, fait que je saignais à l'intérieur, je souffrais, ça faisait mal, c'est un traumatisme. Puis il n'y a pas une personne qui me dit, « Hey, Jean-Sébastien, t'as changé depuis 3 mois. Avant, t'étais tout partout, puis là, t'es plus nulle part. T'sais. Ça va-tu bien? Il se passe-tu quelque chose ici? » Et il y avait une fausse croyance qui était dans mon cœur qui disait que je pourrais être millionnaire si je n'aurais pas gaspiller mon temps pour l'Église. C'est comme si cette idée de s'investir pour l'Église était devenue quasiment un gaspille. Et ça, c'est un mensonge. C'est un point d'aveuglement. Et pourquoi je vous parle de ça ce matin? C'est parce que ces points d'aveuglement-là, c'est pas qu'on s'en va dans le péché. Rétrograder là, avec Dieu, là, ça ne veut pas dire d'aller voir une prostituée si je suis un homme ou de vivre dans les vices qui sont condamnables. Rétrograder, ça veut dire d'arrêter d'avancer dans la foi avec Dieu. C'est d'arrêter d'avancer en faisant confiance à Dieu pendant que lui continue d'avancer. Et dans l'histoire d'aujourd'hui, Pierre a rétrogradé. L'apôtre Pierre, le premier parmi les 12, le pasteur de Jérusalem, a rétrogradé. Mais en fait, ce matin-là, Dieu est bon. Dieu a permis qu'il y ait les honneurs. Je ne pense pas que ce serait la manière de faire, d'honorer tout le monde, sauf celui qui n'a pas travaillé pendant les 3 derniers mois pour faire sentir mal l'autre. Je ne pense pas que c'est son moyen. Mais il y a cette carte-là ici. Elle ne s'est pas usée. Elle est encore super belle et gardée précieusement. Et sur cette carte-là ici, c'est marqué ici, « Vers elle marchent des bergers avec leurs troupeaux. Ils dressent des tentes autour d'elle et ils broutent chacun sa part. » Et cette carte-là, ici, m'a été remise en main propre devant l'Église après le rassemblement par notre frère Gilles. En fait, Gilles est le seul signataire de cette carte-là. Enfin, vous avez, il y en avait plein d'autres. Hein? Et gloire à Dieu pour toutes ces personnes-là qui m'ont honoré. Mais aujourd'hui, il y a, d'après moi, Juliane Stéphane, et en 2004, ils ne voyageaient pas encore à Granby, fait qu'ils n'ont juste pas eu l'occasion de la signer. Il y avait aussi Marie-Ève qui était dans les parages aussi. Donc, il y avait certaines personnes qui étaient là dès le départ, là, que je ne veux pas oublier. Mais ce matin, à cause que probablement c'est ceux qui voyageaient à Granby qui m'ont remis cette carte-là à Granby, devant l'église de Granby, Gilles écrivait « Merci, pasteur Jean-Sébastien, car si tu ne serais pas là, ma motivation serait beaucoup moins grande. » Savez-vous qu'après ce rassemblement-là, c'était un des rassemblements où j'ai souffert le plus dans mon fort intérieur, Mais c'est aussi, cette seule carte-là qui est venue mettre un baume sur tout le reste. C'est comme si, à ce moment-là, dans la grâce de Dieu, je réalisais, « Hey, c'est-tu quoi? C'est pas vrai qu'on gaspille notre temps quand on sert le Seigneur. » Mais en même temps, je réalisais que Dieu il m'appelait à Develuville aussi pour investir dans le troupeau de Develuville et non dans celui de Grimbay. Et donc, c'était correct que tout ça se passe. T'sais. Mon point d'aveuglement était le suivant. J'avais laissé un mensonge occuper ma pensée et puis je n'étais pas parti dans le péché. Ce n'était pas mauvais du tout de vouloir bâtir son entreprise, mais j'avais un point d'aveuglement. Et donc, c'est exactement ce que Pierre va vivre dans Galates. L'apôtre Pierre est rétrograde. Juste avant d'aller à la parole ce matin, dans le fond, si je vous demande, est-ce que vous avez un point d'aveuglement? La réponse probablement va être non ou je ne sais pas. Je ne sais pas parce que si je le savais, je le verrais ce que je ne vois pas. Et donc, ce qui est important, c'est de réaliser, peut-être comme moi, si vous regardez vos premiers pas avec le Seigneur, si vous regardez les premières années que vous avez entendu l'Évangile, si vous regardez vos premières œuvres que vous avez faites, de voir, êtes-vous aussi zélé qu'au départ? Je disais dernièrement dans l'étude aux Galates que normalement, celui qui aime plus, à qui on pardonne plus, va aimer plus. Donc, normalement, plus vous avez vieilli, plus vous avez fait de péchés. Vous avez plus de péchés à votre actif que quand vous avez accepté le Seigneur, donc vous avez été pardonné plus. Et parce que vous avez été pardonné plus, le chemin naturel des choses, c'est aimer plus le Seigneur. Et l'apôtre Pierre dit que le danger du croyant, c'est de mettre en oubli le pardon de ses péchés. Donc, ce matin, si vous examinez votre progrès là, depuis que vous avez accepté le Seigneur, est-ce que vous découvrez ou vous avez découvert des idoles, des pensées qui vous ont sorti comme de votre chemin, qui vous ont rendu justement un autre blond, un cœur ailleurs qu'un cœur sur le premier amour? Est-ce que vous trouvez ça dans votre cœur, comme moi je vous ai partagé? Je vous propose ce matin de prendre la décision tout au long du message et à la fin de mon message, d'avoir une diète de la parole de Dieu qui vient éprouver les sentiments et les pensées du cœur, parce que c'est par la foi qu'on est capable de voir nos points d'aveuglement. C'est parce que la parole de Dieu nous est prêchée qu'on peut voir d'un autre angle, avec une autre caméra. Il y en a qui mettent un autre miroir avec une bulle ronde sur leur miroir. Hein, les traqueurs, ils font ça parce que ça leur permet de voir leurs points d'aveuglement. Bien, notre miroir rond, là, ou notre miroir supplémentaire, quand on a une roulotte, tout ça, bien, c'est la parole de Dieu. Ça va vous permettre de regarder même en arrière, puis de voir si vous étiez dans la foi, si vous avez perdu quelque chose que vous aviez au départ. 2 Corinthiens 13, 5 dit « Examinez-vous vous-même, savoir si vous êtes dans la foi, éprouvez-vous vous-même. » Donc, c'est quoi la parole qui vient nous éprouver? Colossiens 1, 23 dit « Demeurez fondés et inébranlables dans la foi sans vous détourner de l'espérance. » Qu'est-ce que j'ai vu dans ma vie personnelle? J'ai vu qu'après que j'ai décidé d'investir à Develuville, coûte que coûte, il a fallu quand même je trouve des balances parce que déjà en 2006, je faisais un épuisement professionnel. Mais quand même, j'ai décidé, garde Seigneur, va faire confiance. Puis je veux pas devenir millionnaire. C'est pas ça mon but. Mon but, c'est de te servir puis que je vais te faire confiance. Puis Dieu a été fidèle. Puis à un moment donné, il s'est passé qu'il y a des clients qui s'ajoutaient puis je perdais des revenus à l'église. Puis à un moment donné, depuis 2014, eh bien, j'ai deux nouveaux clients qui sont rentrés. Puis là, cette année, vous savez que j'ai passé à être en salaire temps partiel. Puis, j'ai deux clients qui ont doublé leur superficie de salle blanche. Il y a un homme d'affaires qui m'a dit un jour, on ne bâtit pas une compagnie une journée par semaine. Que c'était insensé ce que j'avais choisi de faire. Mais j'y ai dit, moi, je veux me consacrer pour l'Église le reste du temps. Mais il dit, c'est pas de même qu'on construit une compagnie. Peut-être qu'il avait raison aux yeux de la sagesse du monde. Par contre, moi, ce que je vois, c'est un Dieu qui m'a été fidèle jusqu'à aujourd'hui. Puis je veux le louer pour ça. Alors, le passage aujourd'hui qu'on va étudier, c'est dans Galates 2, verset 15 jusqu'au verset 21. Puis, on va le lire verset par verset. On ne le lira pas tout d'une shot. On va le lire verset par verset. Mais juste avant de le lire, pourquoi est-ce que Pierre a rétrogradé, vous pensez, l'apôtre Pierre? Pourquoi vous pensez qu'il a rétrogradé? On en parle, là, ça fait 6 messages à peu près qu'on a sur Galates. Pourquoi c'est farce, Pierre, il a rétrogradé? Oui. Ah, il s'est laissé plier par d'autres doctrines qui rentraient. Il a reçu de la pression de d'autres frères, puis il a cédé à ce mensonge-là. Quel était ce mensonge-là? Oui, exactement. Retourner au judaïsme, c'est-à-dire à pratiquer la loi de Moïse pour être sauvé. C'est-tu ça, l'Évangile? C'est-tu de suivre la loi de Moïse qui nous sauve? Et Pierre, il pensait que c'était ça. En fait, il est revenu à des choses qu'il avait détruites. Et il était en rétrograde. Pourquoi? Parce qu'il est revenu à qu'est-ce qu'il avait abandonné quand il est venu à Christ. Alors, ça va être vraiment intéressant. Ça a pris un ami qui dit, « Hey, Pierre, qu'est-ce que tu fais là? Il est où ton cœur? C'est quoi cette affaire-là de retourner à la loi de Moïse? » Et c'est ce que Paul a fait. Dans Galates chapitre 2, au verset 12, 13, 14, il dit, « Je le repris en face. » Et c'est ça que ça prend. Il s'apprend des gens, et Pierre, il s'est laissé reprendre. Et puis là, la lettre continue, mais on ne sait pas si c'est la continuité de sa discussion avec Pierre ou bien non, si Paul retourne avec ce qui est arrivé avec Pierre, puis il se tourne vers les Galates, puis il leur dit, « Hey, les Galates, apprenez de cela. » Mais peu importe si c'est à Pierre qui le dit ou s'il le dit aux Galates, ce qui est important pour nous aujourd'hui de comprendre, c'est que Paul voulait que ceux qui lisent la lettre aux Galates puissent comprendre qu'est-ce qui en est. Alors, on lit le verset 15. Nous sommes juifs de naissance et non pécheurs d'entre les païens. Nous. Dans l'original, ça pourrait être en ce qui nous concerne, nous sommes juifs. L'emphase est mise sur le sujet du verbe d'être. Nous sommes. Et donc, ce que Paul ici veut apporter, c'est une comparaison, mais d'abord une identification. Il va dire nous, de qui il parle? Et il parle de Paul, bien sûr, de lui-même. Il parle de Pierre. C'est certain qu'il parle des judaïseurs, ceux qui étaient venus troubler les gens dans l'Église. C'était des gens qui venaient de Jérusalem. Ils étaient des Juifs et les Juifs qui habitaient à Antioche. On se rappelle que tout ce qui se passe présentement se passe à Antioche de Syrie, au nord d'Israël. Donc, nous, on est Juifs. Et qu'est-ce qu'ils sont? Il va dire qu'est-ce qu'ils sont et il va dire aussi ce qu'ils ne sont pas. Donc, il va faire un jeu de comparaison comme ça. Il dit, nous sommes juifs. Et Paul leur rappelle qu'ils ont quelque chose qui distingue les juifs des non-juifs. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qui distingue les juifs du reste des autres nations? La circoncision qui vient d'eux. De Moïse qui vient d'eux. Bien, tu l'as, adapte, tu vises dedans, là. Tu es vraiment dans la cible. Ils ont la loi. La loi qui vient avec Moïse. Hein? Ils ont la loi, ils ont les prophètes, ils ont la révélation. Dans la course de la connaissance, ils sont ceux qui devraient savoir le plus que toutes les autres nations parce qu'ils ont la loi, n'est-ce pas? Donc, ils ont la loi et ils ont des privilèges avec cette loi-là. Ils ont, comme tu disais, la circoncision et lorsqu'ils se font circoncire, ils ont aussi un engagement qu'ils prennent avec ça. Ça, c'était avant que Jésus-Christ vienne. Super. Ce qu'ils ne sont pas. Regardez ici. Nous sommes, et ce que nous ne sommes pas, nous ne sommes pas pécheurs d'entre les païens. Donc, on est juifs, mais on n'est pas des pécheurs parmi les non-juifs. Ils ne sont pas pécheurs d'entre les païens. Ici, donc, il faut comprendre qu'un juif qui est endoctriné par la secte des pharisiens au premier siècle, un pécheur, parmi les païens, ce n'était pas juste comme des gens qui faisaient des péchés occasionnellement, c'était certains péchés. En fait, les pharisiens avaient ciblé certains péchés, comme par exemple les publicains et les prostituées faisaient partie des pécheurs. Lorsque vous lisez les évangiles, puis que c'est écrit « il y avait des pécheurs », c'était des publicains, des chargeurs de taxes finalement, et puis des prostituées. Il ciblait certains péchés. Hein? Et aussi, il faut comprendre que si vous seriez un juif au temps de Jésus, vous penseriez que tous les non-juifs sont des impurs et des chiens. Il y avait une ségrégation sociale, il y avait un racisme qui était là, puis ce n'était pas du tout la loi de Moïse qui avait amené ça, mais c'était culturellement ça. Et il fait un peu d'ironie, il est en train de dire, nous, on n'est pas, pécheurs parmi les païens. Mais on va voir que Paul il va faire complètement un judo. Le judo, c'est de se servir de la force de l'argument de l'autre pour le renverser. Et c'est ce qu'il va faire dans ça ici. Paul, donc, on va l'illustrer. Il y a des sous-ensembles. Ici, il y a des juifs, il y a des non-juifs. Et il dit, nous ne sommes pas non-juifs ou nous ne sommes pas païens, hein, mais nous ne sommes pas non plus pécheurs parmi les païens. Et Paul continue. Donc, on voit, ils ne sont ni gentils, ni pécheurs parmi les gentils. Et là, la discussion va continuer et ça va devenir vraiment intéressant. Une chose, par exemple, qu'ils ont, parce qu'ils sont juifs, c'est la connaissance. Tout juif qui connaît un petit peu les Écritures devrait savoir, et c'est pour ça que le prochain verset, il dit « nous savons ». Nous savons. Verset 16. Le mot « néanmoins » n'est pas dans l'original, donc c'est « sachant que ce n'est pas par les œuvres de la loi que l'homme est justifié ». Un juif sincère qui a les Écritures, qui commence dès le commencement, s'aperçoit que l'homme essaie de paraître juste en se cachant derrière des feuilles de figuier dès les premières pages de sa Bible. Il tourne un petit peu, il voit quelqu'un qui offre une offrande des fruits de la terre à Dieu. Dieu dit non, ce qui lui plaît, c'est un sacrifice, un innocent qui meurt pour un coupable. Et plus qu'il avance, plus qu'il s'aperçoit, puis s'il lit un peu d'histoire du peuple juif, s'il lit Néhémie chapitre 9, il voit que le peuple fait toujours ça comme ça. C'est toujours en dents de scie, c'est toujours jamais droit, toujours croche. Quand ça commence à bien aller, il oublie Dieu. Il met les paroles de Dieu en arrière de lui. Ça commence à aller mal, il y a des guerres. Il crie à Dieu, Dieu a pitié de lui. Il lui envoie un libérateur. Il oublie que Dieu l'a libéré. Il oublie la parole de Dieu. Ça commence à aller mal, il y a des épreuves qui viennent dans sa vie. Il crie à son Dieu, Dieu vient le délivrer. Il a toujours besoin d'une miséricorde, il a toujours besoin d'un secours, puis il ne plaît jamais à son Dieu totalement. Tu sais. Fait que le juif, un petit peu, juste un petit peu sincère, qui a les Écritures, il dit, nous savons que ce n'est pas par les œuvres de la loi que l'homme est justifié. Ici, c'est intéressant, c'est que dans le fond, l'homme, il ne peut pas arriver à un endroit où il va se dire, j'ai fait assez de bien pour que Dieu puisse me regarder avec faveur, comme si je pouvais être sauvé. Tu sais. Ça, c'est vraiment intéressant. Paul, avant, lui, pensait qu'il dit dans Romains 7, il raconte son histoire, puis ça, ben, si vous voulez le prendre en note, là, c'est dans Romains 7, 5 à 16, il dit qu'il pensait que la loi pouvait lui apporter la vie. Parce que la loi dit, fais ceci et tu vivras. Il dit, j'ai commencé à respecter les commandements, puis le commandement qui était supposé de me donner la vie m'a tué. En fait, Paul, il raconte qu'il y a eu une sentence de condamnation dès qu'il essayait d'obéir à la loi. Puis il dit, je ne fais pas le bien que je veux, je fais le mal que je ne veux pas, malheur à moi, puis il va dire. Donc, lui-même, en tant que pharisien qui essayait de la suivre, cette loi-là, il dit, la loi est venue provoquer les péchés. Plus que tu suis une loi, plus qu'en dedans de toi, il y a, c'est quoi le défi? Il y a la chair qui dit à la loi. La loi dit, tu ne convoiteras pas, et elle vient provoquer. Et non pas que la loi est mauvaise, mais le péché qui est en moi voit une interdiction, puis il dit, c'est quoi déjà que je n'ai pas le droit? Et donc, la chair se laisse provoquer. Et la loi excite le péché, et avec le commandement viennent toutes sortes de convoitises, les passages vont dire. Dans Romains 3:20, il est écrit que la loi ne peut pas déclarer un homme juste, car c'est par elle que vient la connaissance du péché. C'est par la loi que je sais que je transgresse la loi. Enlève la loi, il n'y a plus de transgression. Et donc, si tu connais juste un peu en tant que juif, si tu connais un petit peu la loi, tu t'aperçois que c'est un ministère de condamnation. Et puis que si tu te fais une liste, si, admettons, moi puis ma femme, on se dit, on va se faire une liste pour se prouver qu'on s'aime. toi tu vas faire ci, moi je vais faire ça. Moi je vais faire ci, toi tu vas faire ça. C'est une recette à désastre. Parce que c'est sûr qu'un des deux va manquer, puis l'autre va dire, « Ah, ah, tu n'as pas fait ta part, tu ne m'aimes pas. » Et la relation avec Dieu n'est pas basée là-dessus. Et c'est comme si c'était un défi que Paul il disait, « Hey, nous, on est juifs, on le sait très bien, qu'il n'y a personne, pas même un seul, qui peut être juste face à la loi de Dieu. » Et donc, c'est comme un défi. C'est comme s'il disait, « Avez-vous déjà trouvé à quelque part dans les Écritures qu'un homme pouvait être sauvé parce qu'il avait obéi à la loi? » Savez-vous que l'obéissance à la loi pour être sauvé, ça ne vient pas de la loi de Moïse? Savez-vous que pour être sauvé dans l'Ancien Testament, il ne fallait pas obéir à la loi? Il fallait croire en Dieu. Que de tout temps, la manière que Dieu sauve des hommes, c'est parce qu'ils ont placé leur foi en Dieu et non parce qu'ils ont fait une vie qui plaît à Dieu. Donc, c'est comme s'il leur lançait un défi puis il disait, écoutez les gars, ça ne marche pas l'affaire. Qu'est-ce que le juif sait encore plus que le non-juif? Il sait que l'homme n'est pas capable d'obéir à la loi de Moïse et recevoir en échange un regard favorable de la part de Dieu en disant, « Hey, franchement, tu les surpasses toutes. Rentre dans la joie de ton maître. » Tu sais. Tu trouves ça nulle part dans les Écritures, même dans l'Ancien Testament. Abraham crut à Dieu et il fut déclaré juste. Il a cru quoi? Il a cru qu'il y aurait un enfant dans son vieil âge. Hein? Il a cru ça. Et il a été déclaré juste. Savez-vous d'où ce que ça vient, cette idée-là, qu'il faut faire quelque chose pour être accepté par Dieu? Ça vient de la chute. Ça vient du fait qu'on ne voit plus comme Dieu l'homme qui se cache derrière son buisson et Dieu qui dit, « Adam, où es-tu? » Dieu dit, c'est un fruit, mais je ne savais pas que j'avais créé ce fruit-là. OK? Donc, j'ai entendu ta voix et j'ai eu peur. Feuille de figuier. Donc, il se cache. Ça vient, la honte devant un Dieu saint vient de la chute. Et donc, c'est important parce que Pierre est en train de retourner à la chute. Pierre est en train de retourner à, pour plaire à Dieu, il faut se cacher derrière l'obéissance. Pierre est en train de rétrograder. Et c'est important qu'ils comprennent ça. On continue. L'homme n'est pas déclaré juste par les œuvres de la loi. Mais par la foi en Jésus-Christ. Justifié, déclaré juste par le juge de l'univers. Ton casier judiciaire, lavé. La qualité de ta vie, juste. Un reproche, aucun. Comment c'est possible, Jean-Claude, Ginette, Gérard, Alphonse, que Dieu puisse te dire, rien à dire. Comment c'est possible? Regarde ta vie. Regarde tes œuvres. Regarde tes pensées que tu as eues juste ce matin. Dieu peut-il dire, irréprochable, sans faute. Aucune intention mauvaise. Si tu as regardé une femme pour t'imaginer avec elle, tu as commis l'adultère dans ton cœur. Si tu as maudit quelqu'un sur le chemin, tu es tueur de cette personne-là. Jésus nous dit, dans Matthieu 5, si tu veux-tu vraiment voir si tu es vraiment juste? Il va te le dire. Puis là, il commence à sortir plein de choses dans Matthieu 5. Tu as entendu dire, mais moi je te dis. Comment Dieu peut te dire juste? Sans reproche, aucun jugement pour toi, sinon, dans Jean 5, 24, celui qui croit en moi est passé de la mort à la vie, ne viendra jamais en jugement. Tu vas arriver devant le juge de l'univers, puis Dieu va dire, tu ne passes pas en jugement, mon chum. Pourquoi? Tes péchés ont déjà été condamnés. Ça, c'est la justice de Christ. Par la foi, et le mot « par » ici, c'est « dia ». Ça veut dire au travers de. Au travers, c'est quoi qui garantit que tu peux être sauvé puis aller au ciel? C'est que c'est au travers le fait que tu as mis ta confiance, non pas dans l'examen juste et précis de toutes tes paroles, pensées et actions, mais dans le fait que tout le registre de tes pensées et de tes mauvaises actions et de toutes les choses bonnes que tu aurais dû faire, que tu n'as pas faites, a été cloué à la croix, Colossiens 2, verset 10 et suivant. C'est écrit qu'il a cloué, pas la loi, il a cloué les choses qui étaient écrites et qui subsistaient contre toi, il les a clouées à la croix et il a effacé l'acte qui te condamnait. Et ça, c'est la justice d'un autre. C'est parce que, non parce que Dieu examine soigneusement ta vie, mais parce que Dieu examine soigneusement la vie de son Fils et il n'a trouvé en lui aucune faute, de sa naissance à sa mort. Il n'a trouvé aucune faute dans le Seigneur Jésus-Christ. Il était, lui, sans reproche. Et lui te substituait, prenait ta place. Et parce que tu y as cru, ça a été placé à ton compte, parce que tu as placé ta foi en Jésus-Christ. Et dans le terme, dans l'original, c'est arrivé dans le passé, c'est arrivé une fois pour toutes, et c'est plus à remettre en question. Alors, les certains évangiles de performance qu'il faut garder notre salut, qu'il faut travailler, qu'il faut persévérer pour le garder, sont en train de voler à cette garantie-là en disant « Ce n'est pas par la foi que tu as eue dans le passé en Jésus-Christ qui te sauve, mais parce que tu continues à faire des œuvres pour pouvoir continuer à être sauvé. » Et c'est un faux évangile. C'est un faux évangile parce que ça nous amène à quoi? À penser qu'un seul instant, je resterai juste par ma marche. Et donc, ça serait de dire « Hey, c'est-tu quoi? Ça n'a rien à voir avec la croix. » Je m'emballe. Nous aussi, et là, il s'identifie, « Hey, Galatiens, rappelez-vous qu'est-ce que vous avez fait. Rappelez-vous de votre premier amour. Rappelez-vous qu'est-ce qui s'est passé. Vous avez cru en Jésus-Christ. On a cru en Jésus-Christ. Puis qu'est-ce qui est arrivé? On a été justifié dans le passé, par la foi qu'on a placée en Christ dans le passé. Ça, on a des effets maintenant de ça. Et non par les œuvres de la loi, parce que nulle chair ne sera justifiée par les œuvres de la loi. » En venant à Jésus, les Juifs et les non-Juifs ont réalisé qu'ils ne pouvaient pas être à la hauteur et que chacun d'entre eux avait besoin du pardon. Regardons le petit dessin que j'ai fait tout à l'heure. Le Juif n'est pas un non-Juif et il n'est pas un pécheur parmi les non-Juifs, mais il n'est pas non plus un juste parmi les Juifs. Il est un pécheur parmi les non-Juifs. Et ça le met sur le même pied d'égalité que les pécheurs des non-juifs. Et donc, tout le monde est placé sur le même sentier d'égalité, et le juif devrait le savoir avant le non-juif, parce que lui, il a la loi qu'il condamne. Il y a la loi qui a été donnée au peuple juif, et donc, il est supposé de le savoir avant les autres, qu'en venant à Christ, il admet son besoin de pardon. Il est en train de dire, hey, les Galates, quand vous avez accepté le Seigneur, c'est pas parce que vous aviez un registre correct, hein? Rappelez-vous, vous aviez besoin d'être pardonné. Et en allant à Christ pour être pardonné, vous avez avoué que quoi? Qu'on ne peut pas être sauvé par les œuvres de la loi. On ne peut pas être sauvé par la bonne vie qu'on fait. Rappelez-vous de ça. Et si vous avez venu à Christ, vous avez reçu le pardon, ça vous a placé où? À la même place que les pécheurs non-juifs. Prochain, il leur rappelle leur expérience. Rappelez-vous, revenez avant, là. Avant que vous partiez sur une mauvaise doctrine puis que vous vous éloigniez de la grâce de Dieu, c'est quoi qu'il y avait là? Vous aviez cru au Seigneur et vous avez été justifié par lui. Verset 17. Ah ça c'est un verset qui n'est pas simple. Mais tandis que nous cherchons à être justifiés par Christ, si nous étions aussi nous-mêmes trouvés pécheurs, Christ serait-il un ministre du péché? Loin de là! Et en quoi se tourner vers Christ serait synonyme d'être trouvé pécheur? Parce que dans le passage, il dit que si on se tourne vers Christ, on serait trouvé nous-mêmes pécheurs. Ça ferait que Christ nous demanderait de pécher. Alors, il a fallu que je lise là-dessus des études de mots pour essayer de comprendre un peu, là. En quoi est-ce que se tourner vers Christ, c'était d'être un plus grand pécheur que celui qui violait la loi? Bien, c'est là que rentrent les judaïseurs. Les judaïseurs, ils faisaient croire qu'ils avaient été envoyés par Jacques de Jérusalem, puis ils disaient qu'il fallait obéir à la loi, puis que si on n'obéissait pas à la loi, on était des transgresseurs. Mais en plus, le plus grand péché encore, c'était d'abandonner la loi. Puis en passant, je prends ma Bible, mais ce serait la loi de Moïse comme règle de vie. Donc, les judaïseurs disaient, si tu la transgresses, tu pêches, puis si tu vas à Christ pour être justifié, tu pêches encore plus. Parce que là, tu ne respecteras plus la loi de Moïse. À partir de demain, si tu viens à Christ, tu n'as plus besoin de marcher selon la loi. Donc, Jésus-Christ, il encourage les gens à être hors la loi. C'est un petit peu ça, le mensonge ici des judaïsards. C'était une pensée subtile, ça faisait un peu de sens. Tu sais, si, à quelque part, il y avait du trouble beaucoup dans la première église, c'est parce que ça faisait du sens. Donc, on leur disait, si tu pêches en transgressant la loi, c'est une affaire. Mais si tu abandonnes la loi pour aller à Christ, tu pêches encore plus. Et là, le texte dit, Christ serait-il un ministre du péché? Autrement dit, ceux que Christ dit, « Hey, tu n'as plus besoin de suivre la loi de Moïse, là. Suis-moi à place. » Tu sais, Jésus dit aux gens de le suivre, mais qu'il leur dit, « Suivez plus la loi de Moïse maintenant. » Est-ce que ça fait de lui le ministre du péché? Ça, c'est vraiment important qu'on comprenne ça, parce que là, ça voulait dire que tu serais vu par les gens du judaïsme puis par ta famille qui n'avait pas encore cru comme étant un transgresseur parce que tu suivais Christ. Et c'est pour ça que Paul y dit, « OK, Jésus, y es-tu le ministre du péché? Y es-tu en train d'encourager les gens? » Et Paul dit, « Loin de la pensée. » Dans l'original, c'est quelque chose qui est très, très, c'est comme crime, non. Ceux qui suivent Christ sont-ils de plus grands pécheurs? Pensez-vous? Pensez-vous que de ne pas suivre la loi de Moïse puis de suivre Christ, ça fait de nous des plus grands pécheurs? On va le voir. Et c'est là que Paul continue. Là. On voit la progression maintenant dans le passage. Si je rebâtis les choses que j'ai détruites, je me constitue moi-même un transgresseur. OK, les judaïsards, ils disent que si on laisse la loi de Moïse de côté puis qu'on suit Christ, on est des transgresseurs. Paul dit non, c'est le contraire. Si tu retournes à ce que tu as détruit, tu es un transgresseur. Qu'est-ce que Paul veut dire par là? Rebâti, c'est déclarer valide, rendre valide. Prochaine acétate. Prochain clic. Détruire, ça veut dire priver de force, abroger. Intéressant. On va commencer par le deuxième. Qu'est-ce que Paul a détruit? Qu'est-ce que vous avez détruit? Vous avez détruit des choses quand vous êtes venu à Christ. Vous avez détruit des idoles. Une des premières choses que vous avez détruites, c'est que vous étiez le centre de votre vie. Puis quand vous avez accepté Jésus, vous avez placé Christ au centre, puis les choses, les idoles sont devenues périphériques, sont devenues plus autour. Christ est devenu plus important pour vous. Hein? Donc, je vais suivre un petit peu mon texte ici. Pierre, se faisait des années qu'il était sauvé, puis à un moment donné, à l'heure du souper, il a une vision, puis il voit, qu'est-ce qu'il voit? Il voit des animaux. Et puis Dieu lui montre que tous les animaux sont purs, puis qu'il n'y a pas besoin de se retenir de manger n'importe quel animal, puis tout ça. Puis il lui dit que dans le fond, le salut est ouvert aussi aux non-juifs. Grosso modo, dans Acte 10, Dieu montre à Pierre. Pierre, il ne parlait jamais à des non-juifs, parce que les non-juifs, c'est des chiens, puis des impurs. Il y avait un mensonge dans sa tête. Alors, qu'est-ce que Dieu est venu faire? Il dit, hey, non, je veux que tu annonces aussi la bonne nouvelle aux non-juifs. Alors, dans Acte 10, il s'en va chez Corneille, annonce l'Évangile. Puis il dit, avant, je ne serais jamais rentré dans la maison d'un païen. Mais il dit, là, j'ai une vision, Dieu m'a montré que je pouvais le faire. Il a détruit. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a détruit une ancienne façon de vivre. Il a détruit des vieilles croyances qui l'empêchaient de communier avec des non-juifs. Il a cassé ça, il a mis ça de côté. Il a déclaré... Il a privé de force, il a abrogé. Abroger, ça veut dire cesser de se laisser dicter par cette chose-là. C'est une loi qui est abrogée, c'est une loi qui n'est plus valide. C'est quelque chose qui a été invalidé. Hein? Donc, il a enlevé la validité de ça, puis là, ça lui a permis de manger avec des non-croyants, des non-juifs, puis il a commencé à évangéliser des non-juifs. Qu'est-ce qui se passe dans Galates 2? Il commence à ne plus manger avec les non-juifs. Qu'est-ce qu'il reprend? Il reprend ce qui a cassé, puis il recommence à reconstruire. Il recommence à déclarer valide à nouveau et il reconstruit ce qu'il avait détruit. C'est ça ici que le passage dit. Et donc, on va prendre un exemple plus près de nous, puis vous allez être capable de vous identifier. Alphonse, c'est un homme passionné par, on va dire, n'importe quoi. Ça pourrait être des thèmes, ça pourrait être... L'idée, ce n'est pas les thèmes ni les chars de collection, n'importe quoi, mais il y a une passion dans sa vie. À un tel point qu'il néglige sa vie de couple, ses enfants. Il est toujours rendu dans sa passion. Et il reçoit l'invitation à suivre Christ, mais il réalise que suivre Christ va aussi lui demander du temps et que Jésus veut qu'il devienne un disciple, alors il choisit sa passion. Plus tard, il vit une crise, son couple est menacé d'un divorce. Et là, qu'est-ce qu'il fait? Quelqu'un lui parle à nouveau de Jésus-Christ. Et cette fois-là, il écoute. Jésus-Christ qui vient, restaure sa vie et il réalise que venir à Jésus, ce n'est pas juste d'avoir la vie éternelle, c'est aussi de le reconnaître comme Dieu sur sa vie, puis que ce Dieu-là a des demandes et qu'il doit vivre pour ce Dieu-là. Et donc, il devient un membre engagé de l'Église. Il reconnaît que sa passion est un idole qui vient prendre le meilleur de son temps et de son énergie qu'il pourrait investir avec sa femme, ses enfants et son Église. Tranquillement, il vient briser les anciennes croyances. Non pas que la collection de thèmes est une mauvaise chose en soi, mais la place qu'il accorde à cette chose-là lui empêche de vivre sa vie dans son potentiel que lui y est supposé d'avoir. Et donc, il vient comme ça, détruire tranquillement des anciennes croyances, des idoles de sa vie. Et puis, ses amis, qu'est-ce qu'ils font? Ils disent, « Hey, tu te rappelles-tu comment les thèmes, c'est important pour lui? » C'est rendu qu'il va à son église plus souvent que sa collection de thèmes. Puis, son couple a l'air à bien aller, mais tu sais, hey, je te dis, il a vraiment changé. De l'extérieur, ça paraît, hey, l'église est si importante pour lui qu'il a sacrifié sa passion. Il ne sacque plus, s'enivre plus. Sa femme, ça, c'est ce que les gens voient de l'extérieur, mais on sait que c'est bien plus que ça, la vie chrétienne. Mais ça porte des fruits, parce qu'il y a des nouvelles croyances, puis on le voit. Hein? Il ne sacque plus, il ne s'enivre plus. Sa femme et lui ont repris. Et là, donc, il a un témoignage tranquillement qui démontre que suivre Christ, c'est aussi se dédier aux autres et à lui. Alphonse commence à avoir des conflits dans l'Église, vit des épreuves comme tout bon croyant, et il ne lit plus sa Bible. Vient à l'Église une à deux fois par mois, ne s'implique plus dans aucun ministère. Il perçoit l'Église comme un travail. Il a perdu sa passion du début et il vient d'acquérir une nouvelle collection de timbres. Qu'est-ce qui cloche? Qu'est-ce qui cloche? Les timbres, c'est pas mauvais. Il est revenu à ses anciens amours. Qu'est-ce qui s'est passé? Ce qui se passe trop souvent dans la vie chrétienne, Alphonse reconstruit sa vie comme avant d'avoir rencontré Christ. Où était Pierre avant d'avoir rencontré Christ? Pierre était à la pêche. Où était Pierre quand il a vécu toutes les épreuves de la crucifixion puis qu'il avait douté de l'appel de Dieu sur sa vie? Qu'est-ce qu'il faisait? Il était à la pêche. Il a dit à ses chums, « Venez-vous-en, les gars, on s'en va à la pêche. » Si je reconstruis les choses que j'ai détruites, c'est moi le transgresseur. On va revenir dans le contexte de ça. Intéressant. Si je rebâtis, si je déclare valide, si avant je pensais, moi, qu'avant de venir à Christ, là, ce qui était important dans la vie, là, c'était d'être riche ou d'être populaire. Puis là, je rencontre Christ, puis là, je réalise que c'est pas d'être important ni populaire, c'est que plusieurs soient sauvés, puis là, je découvre mon don, puis tout ça, puis là, je sers le Seigneur. Puis là, je commence à casser le être populaire, être reconnu par les gens, être admiré par les gens, avoir des louanges parmi des gens. Si j'ai détruit ça, je mets ça de côté pour suivre Christ. Puis qu'après ça, plus tard, je vis comme Pierre des moments de tribulation et que là, je décide de retourner à ce que j'ai détruit. Pierre, c'est un pêcheur d'hommes, pas un pêcheur de poissons. Pierre avait réalisé que Dieu ferait de lui un pêcheur d'hommes, pas un pêcheur de poissons. Qu'est-ce que tu fais là, Pierre, dans tes filets? Qu'est-ce que tu fais, Ginette et Jean-Claude, à reconstruire ce que tu avais détruit? Et donc, Pierre est en train de faire ça en retournant à la loi de Moïse. Il est en train de briser la croix. Il brisait la croix. Pourquoi? Avant, il avait brisé la loi, puis il avait dit, « La loi n'a plus de pouvoir sur moi, parce que je suis allé à Christ. » Mais là, pour aller rebâtir la loi de Moïse, il fallait qu'il brise la croix. Pourquoi il fallait qu'il brise la croix? Parce qu'il devait dire « La croix est insuffisante pour me sauver. » Et donc, qu'est-ce qu'il faisait? Il reconstruisait ce qu'il avait détruit et il détruisait ce qu'il avait bâti. C'est ça le passage ici. Mais ça c'est vrai pour chacun d'entre nous aussi. Quand on arrête, quand on rétrograde, quand on arrête de marcher avec Dieu, quand on ne marche plus par la foi, on retourne comme on était juste un peu avant d'accepter Christ. Et le mot pour transgresseur, c'est, je me constitue moi-même un transgresseur, c'est j'exhibe ma conduite. D'où vient ce mot? De quel mot il nous fait penser? À quel mot ça nous fait penser? Hein? J'exhibe. Tout le monde le sait, personne ne l'a dit? Ah, OK, c'est ça parce que vous ne parlez pas fort. Hein? Un exhibitionniste, quelqu'un qui s'exhibe. Pierre, il faisait un fou de lui. Un chrétien qui a tout laissé pour suivre Christ, puis après, il retourne dans le monde pour être comme le monde. Il fait un fou de lui. C'est pas compliqué. Les gens de l'extérieur ont dit, « Crème, t'as-tu vu comment c'est important, Christ, pour qu'il puisse laisser toutes ces choses-là de son ancienne vie? » Puis quand il laisse Christ pour aller et retourner dans ce qu'il était avant de connaître Christ, il s'exhibe. Il est devant les hommes et il vit sa vie devant les hommes comme un transgresseur. Et le mot pour transgresseur ici, c'est pas quelqu'un qui ne suit pas au pied de la lettre une loi, mais c'est celui qui ne suit pas à l'esprit de la loi. C'est quoi la différence entre les deux? Il y en a un, c'est je fais exactement ligne sur ligne. L'autre, c'est je comprends l'esprit de la loi, puis je ne veux pas désobéir au sens de la loi. Est-ce que vous saisissez la distinction entre suivre au pied de la lettre une loi et suivre l'esprit de la loi? Est-ce qu'il y en a qui c'est douteux? Levez la main ceux qui il y a des doutes, je vais donner des illustrations. Il y a encore un doute. Encore un doute. Parfait. OK. On va personnifier la loi comme un vieillard qui est sur le point de mourir. Et vous êtes une dame, OK, mariée à ce vieil homme, d'accord? Il est sur sa chaise, il est tout branché, là, puis il est à la veille d'y passer. On va personnifier ça, puis je pense que vous allez comprendre. Paul dit, c'est pas en quittant ton ancienne vie que tu transgresses. Donc ici, c'est la loi de Moïse que j'avais placée ici. Pierre l'avait cassée. En n'obéissant plus à cette loi-là parce qu'il n'allait pas manger avec les non-juifs et tout ça, c'est pas en faisant ça qu'il transgresse. C'est en faisant ça qu'il transgresse. On va l'illustrer. On a notre vieillard qui est assis ici. Et donc, le vieillard est ici. Alors, le vieillard dit, « Non! Non! Reviens pas! Tu sais bien, j'ai fait la preuve tout le temps de ma vie que j'ai été avec toi. Je suis mourant. Je suis mourant. Je te l'ai faite, la preuve. Moi, j'étais toujours en train de te dire que tu n'étais pas correct. Je peux rien pour toi, à part t'accuser et dire que tu n'es pas assez bon. Mais je pense vraiment que tu as trouvé l'amoureux de ton âme. Lui, il ne fera pas juste te critiquer. Il ne fera pas juste te dire que tu n'es pas correct. Reste avec. De toute façon, lui, il te justifie. Puis en plus, il te donne la force de faire ce qu'il te demande. Moi, quand je te demande de faire quelque chose, je t'enlève tes pieds puis tes mains. Je te demande de le faire, puis je sais que tu n'es pas capable de le faire. C'est tout ce que je pouvais faire pour toi. Je ne pouvais pas être un meilleur époux que ça. Reste avec lui. Reste avec celui qui peut faire quelque chose pour toi. Moi, je peux juste t'accuser et te dire ce qui te manque. Mon temps est fait. Il y a un temps pour que tu réalises que tu as péché. Mais là, à ce temps que tu l'as réalisé, moi, je peux mourir. Je m'en vais en paix. Moi, je suis content de savoir que tu as réalisé que tu avais besoin d'un sauveur. C'était ça mon rôle. C'est ça que Dieu m'avait demandé. Va-t'en avec l'amoureux de ton âme. Tu as compris que tu avais besoin d'un sauveur, tu es allé avec lui. Sais-tu quoi? Quand tu me dis que tu me préfères à Jésus, ça me blesse. Parce que normalement, tu serais supposé d'avoir compris que tu n'as rien pour être sauvé par toi-même, puis tu as besoin d'un sauveur. Ça, c'était mon rôle. Tu es supposé de te condamner. Je l'ai fait. Quand tu veux revenir, ça me blesse. Parce que moi, mon but, c'était de t'amener à Christ, puis là, toi, tu vas revenir à moi. Puis moi, je suis en train de mourir. OK? Est-ce que ça va plus pour l'esprit de la loi? L'esprit de la loi, c'est ce que la loi voulait dire. Le vieillard qui est assis ici, lui, ce qu'il voulait dire, il est content que tu ailles à Christ. Il ne veut pas que tu reviennes à lui. Il meurt de toute façon. Et quand est-ce qu'il meurt? Il meurt à la croix. Il est mis à mort à la croix. La loi de Moïse est mise à mort à la croix. Revenir à la loi, c'était d'offenser l'esprit de la loi. Pas juste offenser Christ. Ça offensait même la raison même. La loi était là pour nous dire, on a besoin d'un sauveur, c'est tout ce qu'elle pouvait faire. On s'éloigne maintenant de cette loi-là et on vit pour Christ maintenant. Est-ce que ça va? Vous aviez levé la main. L'esprit de la loi, c'est ce que la loi veut dire, mais elle ne le dit pas mot pour mot. Okay? Verset 19. « C'est par la loi que je suis mort à la loi afin de vivre pour Dieu. La loi m'a aidé à comprendre que j'étais condamnable au plus haut point, condamnable devant un Dieu saint. C'est par la loi que je suis mort à la loi. » Qu'est-ce que ça veut dire? C'est par cette loi-là que je suis mort à la loi. Pour Paul, être mort, ça veut dire, le verset d'après, il va dire, je suis crucifié avec Christ. J'ai été crucifié avec Christ. On va le voir après. Donc, c'est par la loi, donc les choses qui sont écrites contre moi, qui sont placées là, c'est par la loi que je suis mort à la loi, c'est-à-dire condamné par cette loi-là. Mais il est aussi arrivé quelque chose il y a 2000 ans, je suis vraiment mort. Qu'est-ce que je veux dire? C'est que pour Dieu, j'ai reçu ma punition. Attends, c'est pas moi qui étais là, c'était Christ. Dieu accepte et comptabilise que c'est moi qui ai été puni il y a 2000 ans pour tout ce que j'ai fait et j'aurai à faire, que je ferai. Donc, c'est par la loi que je suis mort à la loi afin de vivre pour Dieu. Regardez le passage, ça ne dit pas « j'ai quitté la loi pour devenir un bandit ou un sans-loi ». Non! Maintenant, c'est pour Dieu que je vis. Je ne vis plus pour moi, je ne vis même plus pour la loi, je vis pour Dieu. Un règlement entre deux personnes pour prouver qu'on s'aime, ça met des ententes claires, mais il va avoir besoin de pardon. Il va avoir besoin de grâce. Puis oui, c'est vrai que ça prend des termes, mais ce n'est pas par là qu'on prouve l'amour. La preuve, c'est qu'on n'a pas la loi de Moïse, puis on aime Dieu. On a le goût de le suivre. On a le goût de lire sa parole. On a le goût de marcher avec lui. Quand on quitte la loi, on ne devient pas un bandit ou un sans-loi. On devient quelqu'un qui soupire à vivre pour Dieu. Et Paul montre que lorsqu'on quitte la loi, on ne devient pas des gens mauvais, mais on devient des gens consacrés. Et le reste du passage est très, très pertinent, car il dit « J'ai été crucifié avec Christ et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et s'est livré lui-même pour moi. » Quel beau passage! Quel beau passage! Dieu comptabilise parce que vous avez placé votre foi en lui, que vous avez été crucifié avec lui, unis dans sa crucifixion. Et en fait, tous les hommes ont été unis dans sa crucifixion. Tout le monde sont considérés comme ayant été puni. Et tout le monde vont participer à sa résurrection aussi. Certains pour le ciel, d'autres pour l'éternité séparée d'avec Dieu. Mais c'est sa mort et sa résurrection qui fait que tous les hommes vont vivre éternellement, soit au ciel, soit en enfer. Mais il a été crucifié pour chacun d'entre nous. Et nous, j'ai été crucifié avec lui. Paul n'a pas simplement décidé de se séparer de la loi. Mais Paul dit ici qu'il est mort. Normalement, c'est bon. Normalement, j'ai mon café, fait que je me suis rappelé que je pouvais boire. Paul n'a pas juste dit « Ah, la loi de Moïse, on n'est pas légalistes nous autres, on marche par la grâce. » Il n'a pas juste dit « Ah, on décide de ne plus marcher, c'est vieux, ça, c'est plus bon. » Non, il y avait un mariage avec le vieillard, et tant que le vieillard ne meurt pas, ou que je ne meurs pas, je suis encore marié avec. Mais à partir du moment où le vieillard meurt, je suis libre de marier une autre personne. Donc, si je suis la vieille dame, je peux me remarier avec quelqu'un. Alors, Dieu dit qu'à la croix de Christ, je suis mort. Donc, si je suis mort, je ne suis plus marié. Et si je ne suis plus marié, je suis libre aussi de me marier avec qui je veux. Et quand le Juif a compris ça, qu'est-ce qui s'était passé à la croix? C'était une crucifixion et donc une mort. Il pouvait ressusciter maintenant puis ne plus être sous le mariage de la loi, mais dans un nouveau mariage qui est le mariage avec Christ. Et donc, c'est pour ça que c'est important ici que Paul dit « J'ai été crucifié avec Christ » parce qu'autrement dit, c'est pas « J'ai rendu invalide la loi de Moïse ». C'est comme « Mais si tu es divorcé, tiens-toi tu ». Sais. Non. Je suis mort avec la loi, c'est mort, ça a été déjà coupé. Et donc, je peux aller puis me marier avec Christ. Et c'est ce que Paul dit ici. Et le passage est intéressant. Paul est considéré comme ayant été puni avec Christ. Il est mort, il est ressuscité, et maintenant, il y a un nouveau mariage avec Christ. Il est mort et revenu à la vie, et son lien a été brisé. Et c'est plus pour lui-même qu'il vit. Il vit pour Dieu. La clé, c'est pas... C'est quoi qui fait que vous allez être plus amoureux encore aujourd'hui que vous l'étiez quand vous avez accepté le Seigneur? Ce n'est pas juste parce que vous suivez une série de règles que Dieu va dire « Wow! Tu n'as presque pas péché aujourd'hui. » La Bible a été écrite afin qu'on ne pêche pas. Et si nous avons péché, nous avons un avocat auprès de Dieu qui est une victime expiatoire pour nos péchés. On a un défenseur, ça va si on pêche. Mais ce n'est pas correct de pécher. Mais si on pêche, on a un avocat, 1 Jean 2:2, qui va prendre notre défense. Mais c'est bien plus. C'est bien plus que juste, je peux-tu faire un crochet sur toutes les choses que Dieu m'a demandé? C'est aussi d'aller à Dieu quand on a péché. De demander pardon à notre Seigneur Jésus-Christ, puis d'avoir une relation basée sur la croix du Seigneur Jésus-Christ. Mais ce qui est le plus puissant, c'est que je peux vivre une vie d'obéissance. Et le secret, ce n'est pas une liste de choses à suivre, c'est la personne qui vit dans une autre personne. C'est la personne même de Jésus-Christ qui vit dans moi. Paul dit, si je vis maintenant dans la chair, je ne vis plus dans... Je vis dans la foi au Fils de Dieu. Mais regarde, il dit, c'est qui vit en lui? Christ vit en moi. Le secret de votre vie chrétienne, c'est une nouvelle personne qui vit en vous, qui est mort et est ressuscité, il est vivant et il vous donne la force de vivre votre vie chrétienne. Et c'est ça que Paul essaie d'amener dans Galates. Il dit, hey, une vie qui plaît à Dieu, là, c'est une vie non pas faible qui essaie d'obéir à Dieu puis qui n'arrive pas. C'est une vie forte qui est la vie de résurrection de Jésus-Christ qui m'amène à vivre une vie qui plaît à Dieu, non pas ma vie, mais la vie de Christ en moi. Et le mot « ego » est utilisé souvent dans le passage. Je, moi, mien. On voit ça partout dans le passage. Donc, ce n'est pas parce que Christ vit en moi que ce n'est plus moi. Mais ce n'est plus moi qui est le centre. Ce n'est plus mes passions de collectionner des thèmes. Ce n'est plus l'abus d'être un homme riche ou une personne reconnue. Ce n'est plus ça qui est le centre. C'est Christ qui vit en moi. Et c'est ça qui est, c'est ça ma passion, c'est de vivre pour Dieu parce que lui, il vit en moi. Donc, Dieu ne veut pas supprimer qui vous êtes. Vous ne serez pas tous des gens que les cheveux ne bougent pas dans le vent quand que, tellement vous êtes pieux, là, tu sais, comme le vieux film de Jésus. Vous ne serez pas de l'air d'un moine, tu sais, là, parce que Jésus vit en vous. Tu sais. Vous allez être vous, mais vous à votre meilleur. Vous, avec les gens vont dire, crime, Jésus est dans la pièce, tu sais, à cause de son caractère, à cause de sa nature, à cause de sa lenteur à être amer, c'est le pardon, parce que vous allez manifester le fruit de l'Esprit. Donc, Dieu veut que vous soyez le meilleur vous, avec Dieu comme étant le centre, et on termine avec ce passage. Je ne rejette pas la grâce de Dieu, car si la justice s'obtient par la foi, la loi, Christ est donc mort en vain. Le mot pour rejeter, c'est agir comme si ça avait été annulé. Vous savez, hier, il y avait une activité à l'érable rouge, c'était d'aller faire du patin, ça a tombé à l'eau. Une joke. Donc, on a reçu un petit texto qui disait « Déplacez-vous pas pour ça ». Qu'est-ce qu'on a fait? On a fait nos affaires. On a fait nos affaires, puis on n'a pas comme négligé de se retrouver comme à l'érable rouge parce que ça avait été annulé. Donc, c'est ça ici que ça dit. Le passage dit « Vis pas ta vie comme si l'Évangile n'était pas venu dans ta vie. Comme si ce n'était jamais arrivé le pardon de tes péchés. Comme si la croix, ce n'était pas vrai. » Parce que Pierre, il vivait comme si la croix n'était pas venue. Puis il dit, si je vis ça, bien Christ, à ce moment-là, il est venu puis il est mort pour rien. Vis pas ta vie comme avant d'être venu à lui. Pourquoi? Parce que quand il est venu, qu'il a donné sa vie, dans 2 Corinthiens 5, c'est écrit, il est mort et ressuscité afin que les vivants ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. Alors, chacun d'entre nous, on doit faire cet examen de conscience comme Pierre, comme moi, dans ces blind spots, les angles morts de ma vie, puis dire, si je regarde mes premières œuvres, comme dans Apocalypse, c'est écrit, « Souviens-toi de tes premières œuvres. Tu as abandonné ton premier amour. » Et de dire, « OK, comme Pierre, comme Paul a dit à Pierre, es-tu en train de reconstruire les choses que tu avais détruites? » Et donc, il dit, si c'est ça, ben Christ, il est mort en vain. Agir comme si ce n'était jamais arrivé. Je vous l'ai dit, Galates, c'est la seule épître qui n'a pas de louange qui est faite à l'Église, mais c'est une épître que tu dis, ah, c'est du bonbon pour l'âme. Pourquoi? Parce que l'amoureux de notre âme, il nous appelle à lui. Il nous appelle à l'aimer lui plus que toute autre chose. Seigneur, merci pour ta parole. Merci, Seigneur Dieu, que tu nous montres même dans la parole que Pierre et d'autres apôtres, Seigneur Dieu, ont rétrogradé, se sont éloignés de ton évangile. Et ce que ça me montre, c'est que moi aussi, je peux le faire. J'ai besoin de rester dans la parole parce que la foi vient de ce que j'entends. Ce que j'entends, c'est la parole de Dieu. Et si je n'ai pas cette parole-là pour me dire que je suis dans le champ, bien, je ne le saurai pas. Merci Seigneur que notre relation avec toi n'est pas basée seulement sur des préceptes, mais sur une relation remplie de grâce. Et surtout Seigneur, que cette relation de père et fils ou d'époux-épouse avec l'Église, Seigneur Dieu, à la croix du calvaire. C'est quelque chose qui s'est passé une fois pour toutes dans le passé. Et si aujourd'hui je doutais de cela, bien, j'ai encore été nourri dans ma foi pour me rappeler qu'il y a eu une transaction il y a 2000 ans, et quand moi j'y ai cru, ça va faire bientôt 30 ans, j'ai été sauvé, j'ai été déclaré juste, sur la base de l'examen méticuleux de ta vie et non la mienne. Rappelle-moi, Seigneur Dieu, mes premiers mois, mes premières années, Seigneur Dieu. Comment j'étais prêt, Seigneur Dieu, comme avec mon épouse, Seigneur Dieu, il y a 27 ans à peu près, 26 ans, j'étais allé mettre une douzaine de roses dans sa case. Qu'est-ce qu'il n'y avait pas de trop beau, Seigneur Dieu, pour l'être aimé? Rappelle-nous, Seigneur Dieu, comment on était fidèles au rassemblement. Comment, Seigneur Dieu, on lisait nos Bibles. Comment on te priait. Parce qu'on avait découvert l'amour de nos hommes. Bon, nous aussi, c'est d'ici, Seigneur Dieu. C'est temps où on a eu des égarements. Qu'on s'est éloigné, Seigneur Dieu, puis ta grâce était toujours là. Seigneur. Tu nous appelais toujours, Seigneur Dieu, à marcher avec toi. Montre-nous aussi qu'on a été pardonné beaucoup, Seigneur. Puis qu'on peut t'aimer plus, Seigneur, encore aujourd'hui qu'au premier jour. Merci pour cette relation-là que tu nous offres. Amen. Vous savez que Pierre, après plusieurs années, il a écrit dans 2 Pierre 1, « Faites tous vos efforts pour faire de la communion fraternelle. Faites tous vos efforts pour rajouter de la connaissance. Faites tous vos efforts pour rajouter de l'amour. » faites tous vos efforts pour. Puis là, dans 2 Pierre 1, il dit plein d'efforts qu'il faut qu'on fasse. Puis il dit, si ces choses sont en vous et qu'elles le sont en abondance, vous allez porter du fruit de toutes sortes de manières. Mais il dit, celui en qui ces choses ne sont point a mis en oubli le pardon de ses péchés. De qui parle? De chacun d'entre nous, mais Pierre lui-même avait commencé à mettre en oubli. Qu'est-ce qui s'est passé? Comment se fait qu'il a reconstruit les choses qu'il avait détruites? C'est parce qu'il avait mis en oubli le pardon de ses péchés. Et donc, Pierre, il écrit ça, ça veut dire qu'il s'est ressaisi. Et donc, comment est-ce que nous, on peut se ressaisir si on sent qu'on s'est éloigné? C'est en nourrissant notre cœur de la parole de Dieu, puis d'une diète constante de la parole à chaque jour, écouter des messages, c'est d'être présent à l'Assemblée. Si tu ne peux pas être là, de reprendre le CD, télécharger le message, lire si tu peux pas, si tu passes beaucoup de temps en voiture, mets-les en audio. Il y a toutes sortes de manières d'avoir la Bible en audio, mais nourris ton cœur de la foi, parce que la foi, c'est le miroir qui fait dire « Oh, oh! » Il se passe quelque chose. Il y a quelque chose dans ton cœur ici là qui est en train de revenir comme tu étais avant. Puis là, oups, là, il y a la parole qui rentre. Puis là, ben, tu as la main musclée qui sort de ton cœur puis qui te fait vivre une vie surnaturelle, la vie chrétienne que tu as appelée à vivre. Amen. On va terminer avec un chant, puis je vous remercie.
Ce message vous a fait du bien? Vous en voulez plus? L'Église Grâce et Vérité vous offre un site web sur lequel vous trouverez des messages en audio, vidéo et bien plus. Merci de nous honorer en les partageant sur les médias sociaux. Vous pouvez aussi laisser vos commentaires sur notre page Facebook ainsi que sur notre site web au www.graceetverite.org.